Bonjour à tous, on est toujours sur les ondes de Choc FM 105.1 et aujourd'hui nous retrouvons Corinne Barranger. Corinne qui est notre chroniqueuse en développement durable. Bonjour Corinne.
Bonjour Aki.
Vous allez bien ?
Ça va bien, merci.
On est content de vous avoir sur les ondes de Choc FM ce matin parce que Corinne, il paraît que vous allez nous parler de chauffer un bâtiment avec des serveurs informatiques.
Oui, oui, tout à fait.
Donc c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Donc déjà Corinne, j'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire ça en fait ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, bon, déjà, vous savez ce que c'est qu'un serveur informatique.
Oui.
Hein, donc, toutes les entreprises ont besoin de traiter des données. Donc, on a ce qu'on appelle des centres de traitement de données, hein, qui sont ces espèces de grosses armoires que l'on voit régulièrement en photo dans les journaux, hein, qui causent bien des soucis quelquefois. Et donc, ces armoires ont besoin d'énergie et, en contrepartie, produisent beaucoup de chaleur. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres concernant donc l'augmentation de l'utilisation des données, parce que c'est assez quand même impressionnant. Actuellement, on estime que, donc c'est un rapport de Greenpeace, que le volume des données échangées sur le net évolue à peu près de 20% par an. Wow. Et on estime que d'ici 2020, 80% de la population sera connectée.
Wow,
le nombre d'appareils va être le double. En 2018, on va atteindre le nombre d'appareils donc dans le monde sera le double de la population. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est impressionnant.
C'est vraiment impressionnant.
Et le trafic, alors avant, vous savez, donc vous aviez les unités de bureau hein, sur lesquelles on travaillait. Mais depuis l'avènement des téléphones intelligents, quoi, sur des mobiles, hein, des téléphones portables, eh bien, en 2014, l'échange de données sur ces téléphones, sur ces unités mobiles, hein, je pense que ça inclut aussi les tablettes, eh bien, a augmenté de 69%, ce qui est un peu démentiel, quoi. Mmh. Donc, on estime que, entre autres, en matière de consommation d'électricité, on pourrait atteindre jusqu'à 12% de la consommation d'électricité mondiale consommée juste pour les données, ce qui est assez incroyable.
C'est vraiment...
Donc ça représente beaucoup d'énergie.
J'imagine. Mais donc Corinne, vous disiez que donc c'est des centres de données, des data centers, mais comment ils peuvent eux permettre de chauffer des bâtiments?
Bien, c'est en fait c'est relativement simple. Un centre, on estime que un centre de données pourrait d'une surface de 10 000 mètres carrés, hein, pourrait chauffer, consommerait autant que 50 000 habitants. Bon, ça consomme autant que 50 000 habitants. Et peut-être vous le savez, mais quand vous allez dans ces centres de données, ils produisent de la chaleur. Ça chauffe, les appareils, ils chauffent. Même votre ordinateur hein, sur votre bureau, au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte qu'il chauffe.
Oui,
donc, ces serveurs, ils chauffent d'autant plus. Et la climatisation que l'on utilise donc pour refroidir ces serveurs, c'est 40 à 55% de l'énergie utilisée.
Wow.
Ce qui est vraiment énorme. Donc, on a commencé à réfléchir. C'est-à-dire que, dans la démarche de développement durable, c'est toujours repenser les systèmes, repenser notre environnement pour que on consomme le moins possible, que on régénère, on recycle tout ce qui peut être recyclé en quelque sorte. Et donc là, en l'occurrence, ce que l'on peut recycler, c'est la chaleur. Puisqu'on a cette chaleur qui est produite, plutôt que de s'en débarrasser en climatisant une pièce, eh bien, on va prendre cette chaleur, on va la transférer à de l'eau. En fait, avec un système de tuyauterie, en fait, comme je dirais votre réfrigérateur refroidit l'appareil, eh bien, on va refroidir de la même façon. On va refroidir les serveurs avec de l'eau, un circuit d'eau, et ce circuit d'eau va pouvoir être emmené donc dans des bâtiments et chauffer les bâtiments avant de retourner. De refroidir l'eau et on repart dans le système. Hein. C'est aussi le système qui est utilisé, bon, dans un contexte de développement durable, c'est pas tellement quelque chose que l'on ne veut, mais dans les centrales nucléaires, hein, il y a un double circuit de refroidissement où c'est de l'eau, hein, tout simplement, hein, puisque le cœur nucléaire, en fait, chauffe énormément, et donc pour le refroidir, on utilise de l'eau, hein, bien sûr. Donc c'est assez un peu, en fait, on s'est inspiré un peu de la même technique, hein. Et donc une fois cette eau refroidie, ben on peut s'en resservir, refaire le système.
Okay. Donc ça nous permet d'économiser en fait ce qu'on.
Pour ben faire... voilà, donc non seulement on n'utilise pas d'énergie pour climatiser la pièce, mais en même temps on utilise la chaleur de cette pièce pour chauffer ailleurs.
D'accord.
Voilà. Donc c'est relativement simple. Le système est simple, hein, ouais. En lui-même à comprendre. Hein, voilà.
À comprendre. J'imagine à l'installer, ça doit être beaucoup plus difficile, peut-être.
Oh ben, oui. Voilà. Après, ce sont des ingénieurs qui installent ce genre de système. Hein.
Oui. Est-ce que vous connaissez quelques sites où ce système est utilisé?
Oui. Alors c'est une technologie qui est encore comment dire assez nouvelle. Hein. Donc il y a moi, je connais principalement des sites en Europe. Alors, il y a l'Université d'Amsterdam qui est chauffée par une partie, en fait, de l'université qui est chauffée par des serveurs de Equinix. Il y a une piscine publique aussi en Suisse qui est chauffée avec IBM, le serveur d'IBM.
Okay.
En France, il y a une serre de fleurs qui est chauffée par une autre entreprise. Sur Marne-la-Vallée, qui se veut être un projet pilote pour beaucoup de technologies comme ça, excusez-moi, on chauffe une piscine et aussi un incubateur, enfin un début de réseau urbain. Et au Danemark, Apple aussi, avec un data center de Apple, on veut chauffer un réseau urbain. Donc il y a beaucoup de, alors il y a une tour à Montréal, la tour EMEA, mais je ne sais pas, j'ai pas pu trouver si c'était vraiment la même technique, mais le principe est le même. Le principe, c'est toujours d'utiliser la chaleur émise par des appareils dont on a besoin pour chauffer en fait un environnement.
Mais donc c'est pas encore très très répandu d'après ce que vous me dites.
Non, c'est une technologie qui est assez récente en fait, hein. Donc mais comme tout, je veux dire, on a besoin de recherche, beaucoup d'investissements en recherche et développement pour faire évoluer ces techniques, hein, et parce que bien il faut toujours partir un peu de zéro et de voir tester, voir si ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ça prend des années, hein.
Oui, j'imagine.
Tout à fait.
De voir si. D'accord. Et Corinne, j'ai une autre question, c'est qu'au niveau individuel, est-ce qu'on peut bénéficier de cette technologie?
Alors, en fait, en 2013, il y a un Français qui a pensé, enfin, il pensait ça depuis longtemps, il a travaillé dans des services informatiques et il a créé son entreprise qui a fait la une d'ailleurs de plusieurs journaux plutôt en Europe, où alors il installe chez vous un radiateur. Mmh. Alors là, c'est un peu différent comme système. Donc, il installe chez vous un petit radiateur qui est 60 par 60. Donc, c'est pas très, très grand comme radiateur. Mais à l'intérieur de ce radiateur, il met ce qu'on appelle des cartes mères. En fait, je dirais le cœur de votre ordinateur, les pièces qui chauffent. Okay. Et il met ces cartes mères, donc, qui génèrent de la chaleur, mais en même temps, qui sont un site de production de données.
Oh.
Vous voyez, puis ce sont des ordinateurs. Donc, ce qu'il fait, il utilise la production de ces données, en fait, la capacité de l'ordinateur, il revend ses capacités de stockage et de fonctionnement, en fait, à des entreprises, et ça permet de chauffer la pièce.
Oh, ok.
Vous comprenez le système?
Oui, je vois, ouais.
Voilà. Et donc, ça permet aux gens de se chauffer gratuitement. En fait,
okay.
Puisqu'il rembourse en fait l'énergie qui est utilisée pour alimenter le radiateur au départ.
D'accord.
Est-ce que vous comprenez le fonctionnement?
Ça a l'air simple expliqué comme ça. Je ne sais pas si en pratique c'est aussi simple. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce système ou c'est vraiment quelque chose de tout nouveau?
Actuellement, donc il y aurait 350 appareils, peut-être plus aujourd'hui, qui seraient déjà utilisés. Et surtout, ça permet aussi à certaines entreprises d'obtenir des capacités de stockage de données. Et donc, c'est un échange qui est, comme on dit, win-win situation.
Mm-hmm.
C'est gagnant-gagnant. Et donc, ça permet à certains appartements d'être chauffés et aussi aux entreprises d'obtenir une capacité supplémentaire. Alors, on estime que En termes de, si on veut basculer dans l'utilisation de l'ordinateur en quelque sorte, pour chauffer 2000 personnes, en fait, le film, vous savez, Shrek 4,
oui.
Qui a été produit, il permettrait de chauffer 2000 personnes.
Ah bon?
Voilà, donc rien qu'en utilisant l'ordinateur pour faire la production de ce film. C'est assez intéressant comme concept, en fait.
Ouais, dis donc. Non, c'est vraiment, ça me fait penser à la phrase, je crois que c'est rien ne se perd, tout, rien ne se crée, tout se transforme.
Exactement, tout à fait. Vraiment... Donc c'est un moyen, en fait, de recycler intelligemment, en fait, un certain nombre de choses, quoi.
Waouh, bah dis donc. Et donc, Corinne, quels sont les avantages, mais aussi les défis auxquels font face ces nouvelles technologies?
Eh bien, donc c'est vrai que on chauffe a priori les bâtiments avec une énergie propre et on réduit le nombre d'émissions de CO2 puisque en fait en n'utilisant pas d'énergie pour chauffer, eh bien on réduit la consommation globale en fait d'énergie. Mmh. Donc on réduit les émissions à effet de serre. Mais Ce à quoi il faut penser aussi, c'est qu'à l'origine, il faut quand même de l'énergie pour faire fonctionner tous ces systèmes.
Oui.
Et donc, là, quand on parle donc des centres de traitement de données, si on se réfère aux gros utilisateurs de données, donc on dira que c'est plutôt les gens comme Yahoo, Google, etc. Mmh. Donc, actuellement, certains se sont engagés à se convertir à l'énergie verte, hein, c'est-à-dire solaire, éolien, etc., géothermique. Apple est déjà pratiquement à 100% de son énergie verte. Okay. Yahoo, 73%, Google, 46% et Facebook, 49%.
Okay.
Par contre, des gros joueurs quand même qui consomment énormément d'énergie comme Amazon et eBay, par contre, ont refusé.
Hein,
ils ne sont pas du tout sur la même ligne. Donc, je dirais quelque part, quand on fait des choix de consommation, quelque part d'aller regarder un petit peu comment les gens pensent leur système. Alors, ça évolue tous les jours, hein, parce que c'est sûr que quand on regarde les données, toutes les données que je vous ai données, elles viennent de Greenpeace, on sent que, bon, avec les années, en voyant l'évolution des différentes technologies, etc., les sociétés finissent par se convertir, quoi. Mais il y a encore vraiment ce mouvement, quand même, qui est très sceptique sur le réchauffement climatique, qui fait que, eh bien, certains ne vont absolument pas dans cette voie-là. C'est une réalité. Donc, peut-être dans nos choix de consommation, peut-être privilégier les entreprises qui font un petit peu des choix un peu plus verts, dirons-nous.
Ouais. C'est vrai que c'est comme ça que peut-être les choses changeront. Bah, super intéressante cette chronique, comme d'habitude, avec Corinne Barranger. Merci beaucoup, Corinne.
Pas de problème.
Merci.
Bonne journée.
Merci, vous aussi. Nous, on reste sur les ondes de Choc FM 105.1.